ceux qui m'écoutent sur Internet, je voudrais vous signaler que j'ai placé sur le site, à la suite des conférences doctrinales, c'est une série de conférences sur le catholicisme libéral à partir de l'œuvre magistrale de l'abbé Barbier, Histoire du catholicisme libéral en 5 volumes. Donc ces conférences, il y en a eu actuellement 6, sinon je pense 2 ou 3 de plus, j'ai le temps, je les ferai cette semaine. Sont très importantes à mon avis pour bien comprendre l'histoire du catholicisme libéral et ses conséquences pour la vie d'aujourd'hui. Ces conférences seront également mises petit à petit sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous arrivons à tournant une page aujourd'hui, puisque c'est la fin de l'année liturgique. Pour un catholique, je vous l'ai déjà dit, le début de l'année, c'est le premier dimanche de l'Avent. Je vais faire un petit peu le point. Comment s'est passée cette année que le bon Dieu, dans sa miséricorde, m'a donnée? Le bon Dieu nous donne du temps. C'est énorme, ça. C'est quelque chose qu'il ne donne pas à tout le monde. Il nous a donné du temps et des grâces. Et plus la liberté. Qu'est-ce que j'ai fait du temps qu'il m'a donné pendant un an? Qu'est-ce que j'ai fait des grâces qu'il m'a confiées pendant un an? Et qu'est-ce que j'ai fait d'usage de ma liberté pendant un an? Mais en préparant le sermon, j'ai relu l'épître d'aujourd'hui aux Colossiens. Il y a une petite phrase qui ne m'avait pas frappé avant, mais là, qui m'a bien frappé. Saint Paul nous dit, il faut vivre, vivons de manière que nous soyons dignes de Dieu pour lui plaire. Deux choses. Vivre pour être digne de Dieu afin de lui plaire. Il y a tout là-dedans. Donc j'ai des choses à faire. Utiliser les grâces du bon Dieu, ma liberté et mon temps pour être digne de Dieu. Et utiliser ma liberté, la grâce de Dieu, les grâces de Dieu et le temps pour plaire au bon Dieu. Comment on fait pour être digne de Dieu? C'est quand même incroyable en soi d'être digne de Dieu. Saint Paul prononce les termes être digne de Dieu. Mais je n'oserais pas prononcer une fois une phrase pareille. Pourtant, il explique. Et ça, c'est une conséquence directe du fait qu'on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Saint Paul va nous expliquer justement que par le caractère du baptême, nous devenons enfants de Dieu. Et devenant enfants de Dieu, nous sommes dignes de Dieu. De la même qu'un enfant est digne de l'amour de sa mère, de l'amour de son père. De la même façon, étant enfants de Dieu, nous devenons dignes de Dieu. Et la meilleure façon d'être digne de Dieu, et de prouver qu'on est digne de Dieu, c'est de lui plaire. Comment est-ce qu'on fait pour plaire au bon Dieu? On plaît au bon Dieu tout simplement en obéissant au bon Dieu. Quand un petit enfant de 5 ans demande à sa mère, qu'est-ce que je peux faire pour vous plaire aujourd'hui, maman? Qu'est-ce qu'il va répondre à la mère? Il va répondre au petit, sois très obéissant. Tu vas obéir au doigt et à l'œil à tout ce que va te demander ta maman et ton papa aujourd'hui. Voilà la meilleure façon de plaire à tes parents. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Nous aussi, nous devons utiliser ces trois choses que le bon Dieu nous donne, donc le temps, les grâces et la liberté, pour plaire au bon Dieu en étant obéissant à sa loi. La loi du bon Dieu, c'est quoi pour nous? La loi du bon Dieu pour nous, mais c'est tout simplement les 10 commandements de Dieu. Donc pour être digne de Dieu, pour plaire à Dieu, il n'y a qu'une seule chose à faire, vivre en état de grâce. Donc le monde se divise en deux parties, ceux qui plaisent au bon Dieu parce qu'ils vivent en état de grâce, et ceux qui ne plaisent pas au bon Dieu parce qu'ils ne vivent pas en état de grâce. En général, ceux qui plaisent à Dieu ne plaisent pas aux hommes, et ceux qui plaisent aux hommes ne plaisent pas à Dieu, ce qui est une contradiction dans les deux choses. Et donc il faut revoir un petit peu notre année, un peu comme devant un miroir. Est-ce que j'ai plu au bon Dieu aujourd'hui, pendant toute cette année dernière qui s'est passée? Est-ce que j'ai maintenu mon âme en état de grâce, au moins plus ou moins, tant que faire se peut, pendant toute cette année dernière? Peut-être qu'il est bon, je ne peux pas vous l'obliger, mais c'est un conseil qu'on donne souvent en fin d'année liturgique, au début de l'année liturgique nouvelle, de faire un peu le point, aussi avec une bonne confession. Conseil que je donne souvent. C'est de terminer l'année liturgique cette semaine pour ceux qui le peuvent, peut-être avec une confession générale de toute l'année dernière, reprendre un peu les offenses faites au bon Dieu, c'est pas pour tout le monde, y compris pour moi, les offenses faites au bon Dieu pendant l'année dernière pour reprendre des forces et repartir. Et si je constate que peut-être dans ma façon d'agir, dans ma façon de penser, dans ma façon de me comporter par rapport à Dieu, par rapport au prochain, j'ai pas agi toujours comme j'aurais dû le faire. Eh bien, reprendre un petit peu le contrôle de soi-même avec la grâce du bon Dieu pour commencer cette autre année que le bon Dieu nous donne, au moins il nous donne le début, de meilleure manière, en augmentant à nous la charité. Le bon Dieu nous aime en fonction du degré de charité que nous avons. Le degré de charité, certes, il vient de lui, mais le bon Dieu qui se regarde dans une âme, s'il voit sa propre image se refléter dans notre âme, à ce moment-là, il sait qu'il a devant lui une personne qui cherche à lui plaire. Et donc, c'est un peu du donnant-donnant. Plus je cherche à plaire au bon Dieu, plus le bon Dieu, dans sa miséricorde, me donne des grâces pour que je puisse arriver à lui plaire chaque jour davantage. Donc c'est la question toute simple qu'il faut se poser. Qu'est-ce que je dois faire pour plaire davantage au bon Dieu cette année qui vient que je lui ai plu cette année qui est passée? Qu'est-ce que je dois faire pour être davantage digne de Dieu cette année qui vient que je l'ai été cette année qui est passée? Faire un petit peu le point. Encore une fois, peut-être qu'une confession générale de toute l'année dernière peut être un bon moyen de repartir. Je voudrais aussi rapidement vous parler de ce grand discours eschatologique de Saint Matthieu, chapitre 24, l'Église catholique termine l'année liturgique justement par le rappel de la fin des temps, la fin du monde. Nous rappeler qu'on est ici que comme des êtres de passage, nous sommes des viateurs. Viateurs, c'est-à-dire que nous sommes sur la via. La via, c'est le chemin. Nous sommes des pèlerins qui cheminons vers le ciel. Nous ne sommes pas appelés à rester sur cette terre bien longtemps, peut-être 80 ans, un siècle, un peu plus pour certains. Mais nous sommes ici pour nous préparer du futur. Je ne suis pas ici pour jouir. Dans ces conférences que je prépare sur le catholicisme libéral, je suis tombé sur le texte ahurissant, écrit par des disciples de Louis Veuillot, par l'abbé Barbier lui-même. Ils disent que justement, ce qui a complètement détruit l'âme des chrétiens au XIXe siècle, l'abbé Barbier a écrit sous Saint-Pédis, début du XXe, mais il analyse les débuts du catholicisme libéral à partir de 1830, donc à partir des hérésies de Lamennais, les condamnations de Grégoire XVI, Mirarivo, c'est quelques condamnations d'indifférentisme. Il donne bien la clé, il dit, ce qui a commencé à perdre les catholiques, c'est le désir de jouissance. Il le disait autour des années, à la fin du siècle, la fin du siècle, du 19e siècle, début du 20e siècle, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? C'est exactement ça. C'est une espèce d'égoïsme. On retourne tout vers nous, jouir au maximum. Alors que le catholique, c'est quelqu'un, au contraire, quelqu'un qui ne retourne pas toutes les choses vers lui, mais qui retourne toutes les choses vers Dieu pour dire au bon Dieu ce que disait Saint Paul, Seigneur, que voulez-vous que je fasse? C'est Saint Paul qui vient d'être abattu sur son cheval, Seigneur, que voulez-vous que je fasse? Qui êtes-vous? Je suis Jésus que tu persécutes. Et si j'ai persécuté notre Seigneur par mes péchés passés, il faut maintenant rattraper. Comment puis-je rattraper les péchés passés? Souvent les gens me demandent, Monsieur l'abbé, j'ai une vie de patachon dans le passé, maintenant je me suis converti avec la grâce du bon Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour rattraper ces choses-là? Rattraper par l'amour de Dieu. Plus on a péché dans le passé, plus il faut rattraper par l'amour. Rappelez-vous ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit à Sainte Marie-Madeleine, parce qu'elle a beaucoup aimé, il lui sera beaucoup pardonné. Donc plus nous avons péché dans le passé, plus nous devons utiliser la miséricorde infinie du bon Dieu pour nous relever, plus nous devons prouver au bon Dieu qu'on regrette son passé justement par l'amour du bon Dieu. Le bon Dieu ne nous demande pas de constamment penser au passé, pas du tout. Il nous demande au contraire d'utiliser les fautes du passé pour augmenter l'amour du bon Dieu aujourd'hui et pour le futur. Alors dans cet évangile eschatologique de Saint Matthieu, on va simplement prendre quelques phrases qui nous semblent importantes. D'abord, l'ouverture de l'évangile. L'évangéliste va citer le prophète Daniel, qui avait annoncé l'abomination de l'abomination dans le sanctuaire. Les pères de l'Église se sont posés la question, qu'est-ce que c'est que cette abomination de l'abomination dont parle Daniel, le prophète Daniel? Et les pères de l'Église ne sont pas d'accord entre eux. Il y a un des passages de l'évangile qui est difficile à interpréter. De quoi parle Saint Daniel? En fait, l'abomination de l'abomination, d'après beaucoup de pères, l'abomination de l'abomination dans le sanctuaire, ils pensent que c'est une référence déjà à la destruction de Jérusalem par Titus en 71. Vous savez que après le déicide, après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ par les pharisiens juifs, par les membres du Sanhédrin, donc Dieu a permis un châtiment. Tous les pères de l'Église sont d'accord là-dessus, qu'il y a eu un châtiment terrible. Ce châtiment, c'était la destruction du temple. Destruction du temple de Salomon, dont les Juifs étaient tellement fiers, et la destruction complète de la ville de Jérusalem. Et les historiens nous disent que c'est certainement un des sièges les plus épouvantables qui ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu plus d'un million de morts. Un million de morts, il y a 2000 ans, vous voyez un peu ce que ça peut faire. Et pour bien montrer le lien entre cette destruction de la ville de Jérusalem et le déicide, par le crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Joseph, un des historiens juifs de l'époque, qui dit, avant le siège de Jérusalem, on vendait un esclave pour 30 deniers. Et après la prise de Jérusalem, on vendait 30 juifs comme esclaves pour 1 denier. Et tous les juifs qui ont été pris encore vivants, ceux qui n'ont pas été vendus en esclavage, ont été crucifiés tout autour de la ville de Jérusalem. Et Joseph explique qu'il y a une forêt de croix de juifs crucifiés pour expier justement le crime du déicide. Alors on peut essayer d'aller un petit peu plus loin, parce qu'encore une fois, les pères d'Église ne sont pas d'accord entre eux, ne disent pas tous la même chose, ils ne sont pas très sûrs qu'est-ce que c'était que cette abomination de l'abomination. Mais il y a une autre abomination, l'abomination de l'abomination ou l'abomination de la désolation. Je crois que le terme utilisé par saint Matthieu, c'est abomination de la désolation. Une autre abomination, c'est la destruction par un autre siège d'un autre chef-d'œuvre. En 71, Titus a détruit le royaume de Jérusalem, il a détruit le temple de Jérusalem. Et quand je commets un péché mortel, eh bien, le démon, après un siège de mon âme qui peut durer très longtemps, il va détruire un diamant extraordinaire. Il va détruire l'état de grâce dans mon âme. Et en soi, la destruction de l'état de grâce dans mon âme, dans une âme, c'est quelque chose de plus grave que le siège de Jérusalem. Donc l'abomination de la désolation, eh bien, c'est aussi l'introduction du péché mortel dans l'âme d'un catholique qui est supposé être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc combien de fois, c'est un examen de conscience qu'il faut faire, combien de fois est-ce que j'ai laissé s'introduire dans mon âme l'abomination de la désolation par le péché mortel? Voilà pourquoi il faut bien utiliser régulièrement le sacrement de pénitence afin de récupérer cette beauté d'âme que le bon Dieu veut voir dans mon âme. On peut aussi peut-être d'autres commentateurs, cette fois-ci beaucoup plus modernes. Et c'est sans doute vrai aussi, pense que l'abomination de la désolation, c'est aussi ce qui s'est passé dans l'Église. À partir de la mort du pape Pie XII, quand on voit la destruction pratiquement totale de la foi catholique, quand on voit l'arrivée eh bien, la destruction du sacerdoce, la destruction du baptême, la destruction du sacrement de mariage, la destruction, l'introduction des idées libérales dans l'Église par le Concile Vatican II entre 62 et 65, avec l'introduction de la liberté de conscience, de la collégialité, de l'œcuménisme. Quand on voit l'introduction de toutes ces idées morales dans les lois de l'Église par le nouveau code de droit canonique en 83, quand on prend l'espèce d'image de ce qu'est devenue l'Église catholique, on a l'impression d'avoir un château dans lequel une troupe de barbares est passée, ils ont tout cassé, il ne reste plus rien. C'est peut-être bien ça aussi, l'abomination de la désolation. Alors, de ces trois abominations de la désolation, je crois que la plus grave, c'est la deuxième. Parce que nous ne sommes pas responsables directement, l'abomination de la désolation 71, pour la destruction du temple de Jérusalem, ce qui s'est passé dans l'Église, bon, je ne suis pas non plus directement responsable, mais par contre, l'abomination de la désolation dans mon temple, ça, j'en suis responsable. Et donc, de ces trois abominations, c'est la plus grave. Un autre point qui me semble important, c'est une phrase de saint Matthieu qui dit qu'à la fin des temps, notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec le signe du Fils de l'homme. Au moment de la résurrection générale, le signe du Fils de l'homme apparaîtra. Ce signe, c'est la croix. Notre Seigneur Jésus-Christ juge par sa croix. Et donc, encore une fois, on divise en quelque sorte l'humanité en deux parties, ceux qui vénèrent, qui adorent, qui respectent la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui seront sauvés par cette croix. Et au contraire, ceux qui méprisent, qui vilipendent, qui traînent dans la boue la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui seront écrasés par cette croix. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour justement mettre la croix de notre Seigneur Jésus-Christ dans mon âme? Comment est-ce que la croix, comment nous avons accès aujourd'hui, en 2019, à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ? Bien, nous avons accès à cette croix de notre Seigneur Jésus-Christ par la messe. La messe, c'est la croix. Renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. Le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. Lorsque le prêtre prononce les paroles de la consécration, ceci est mon corps, ceci est mon sang, livré pour beaucoup, eh bien, lorsque la substance du pain, la substance du vin disparaissent pour être remplacées par la substance du corps, du sang, de l'âme et de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le crucifiement du calvaire qui est renouvelé. C'est exactement la même croix, c'est le même sacrifice. Le catéchisme du Concile de Trente explique bien qu'il n'y a pas de différence substantielle entre le mystère du calvaire et le mystère de la messe. C'est le même sacrifice. Certes, le mystère de la messe est un mystère non sanglant, alors que le mystère du Golgotha est un mystère sanglant. Aussi, pendant la Sainte Messe, Dieu va mourir dans son humanité en utilisant le prêtre comme un instrument. Mais c'est en soi le même sacrifice, donc la même victime, et c'est à nous d'utiliser cette victime. Et pour être sûr que nous comprenions bien que ce ne sont pas des paroles en l'air, notre Seigneur Jésus-Christ finit son évangile en disant « Le ciel et la terre passeront, et mes paroles ne passeront pas. » Parce que ces paroles sont divines. Et donc il nous faut comprendre, bien chers frères, surtout en ce temps de barbare dans lequel nous vivons, c'est vraiment un temps de barbarie, c'est le retour à la barbarie pour détruire la famille, pour détruire les enfants, pour détruire la femme, pour détruire tout ce qui est le plus sacré dans l'Église catholique. Eh bien, dans ce temps de barbarie, il faut nous accrocher à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette croix qui a été toujours le seul et l'unique moyen de salut. Alors, dans ce temps, justement, nous voyons tant de gens perdre la foi autour de nous. Eh bien, il nous faut savoir nous mettre à genoux au pied de la croix, s'accrocher à la croix et demander à la croix de nous sauver. Les gens ne savent plus ce que c'est tout ça. Ils savent plus, ils ne comprennent plus toutes ces choses-là parce que, justement, ils ont perdu le contact avec le réel. Et donc, ils vivent dans un monde totalement virtuel. Un monde totalement virtuel, dominé par le démon, et donc ça les a coupés de la réalité. Quelle est la réalité? La réalité, c'est que nous sommes des êtres d'éternité. La réalité, c'est que vous et moi, nous sommes créés pour louer, honorer, servir Dieu et sauver notre âme. Voilà la réalité. Le monde moderne nous dit au contraire, je suis sur la terre pour jouir le plus possible. Quel malheur, mes chers frères. Et combien il nous faut, mes chers amis, comment il nous faut justement réaliser ces choses-là? Et nous dire que peut-être si dans le passé, j'ai trop utilisé mes sens pour jouir de la vie le mieux possible quand les gens du monde moderne, eh bien, je dois rattraper ça par l'amour du bon Dieu et surtout l'amour de la croix, l'amour de la messe, l'amour des sacrements, puisque vous habitez proche de la messe, il faut remercier le bon Dieu tous les jours pour ça. Pensez à tous les gens qui meurent littéralement, spirituellement parlant, parce qu'ils n'ont rien du tout. Le 29 décembre, je fais mariage ici d'un jeune homme que je connais déjà, qui est venu faire déjà une retraite avec moi et qui veut se marier. Je connais sa fiancée, elle est déjà venue, elle se prépare au baptême. Le 29 décembre, je vais la baptiser et les marier. Eh bien, ils habitent à Pékin. Il n'y a rien. Mais absolument rien. Pas de messe, pas de prêtre. Alors, ils sont obligés de faire 20 000 km pour venir se marier. Hein? Et vous n'allez pas faire 20 000 km. Il y en a qui vont faire 2,5 km, même pas. Et l'autre un peu plus. Hein? Mais il faut remercier le bon Dieu pour tout ça. Pensez à tous ces gens qui n'ont pas ça, qui n'ont pas ces messes. Alors, il faut penser aussi aux conséquences. Parce que le bon Dieu, le jour où vous allez mourir, il va regarder sur sa map monde. Hein? Dis donc, vous habitez où vous? Maman, j'habite à Padiès. Ah bon, mais c'est pas trop proche d'un. Il n'y a pas la messe juste à côté, Saint-Sacrement, juste à côté de chez vous, là? Ah ben, Ben oui, est-ce que vous avez utilisé cette source extraordinaire? Ben pour vous aussi, pour nous tous. Est-ce que vous avez utilisé la présence de notre Seigneur Jésus-Christ? Vous n'habitez pas à 20 000 km du Saint-Sacrement, vous n'habitez pas à 20 000 km de la messe, vous habitez à quelques kilomètres de la messe. C'est des grâces incroyables. Il y a des gens qui donneraient cher, je vous assure. J'en connais qui donneraient, mais tout ce qu'ils ont pour avoir cette grâce. Alors utilisez ces grâces dans toute la mesure du possible. Rappelez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ est là. Il est au tabernacle, avec son Sacré-Cœur grand ouvert. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Venez à moi, vous qui ployez sous le fardeau, et je vous referai. Je vous referai, ça veut dire je vous donnerai une vie nouvelle. Je mettrai mon âme dans votre âme, mon corps dans votre corps, mon sang dans votre sang. Littéralement, il va nous diviniser par l'accès au sacrement. Donc demandons à la très sainte Vierge Marie, celle qui a été choisie par le bon Dieu pour être justement l'intermédiaire, celle qui nous amène à son visage d'un fils, donc celle qui nous amène à la croix, celle qui nous amène à la messe, celle qui nous amène au tabernacle. Demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses-là et surtout à les mettre en pratique. Et si peut-être dans l'année qui vient de se terminer ou qui se termine aujourd'hui, nous n'avons pas fait les choses parfaitement, si parfaitement que le bon Dieu le voudrait, nous puissions changer ce qui est à changer pour que le Seigneur puisse vraiment nous dire un jour, venez bon et fidèle serviteur. Parce que vous avez été fidèle dans ces petites choses, eh bien, venez posséder le royaume qui vous a été préparé. Et la Sainte Vierge viendra et nous prendra par la main pour nous conduire à son divin Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.